Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot, où l'on retrouve un menu qui n'est pas sans rappeler celui de lundi dernier, sauf que certaines choses ont évolué. Dans un instant, on reparlera de la Côte d'Ivoire, d'abord, où la course à la présidence de la fédération tient en haleine les amateurs de football. Didier Drogba s'est présenté samedi pour déposer son dossier de candidature dans les délais. Alors, candidature en règle, c'est le point d'interrogation. La commission électorale répondra à cette question dans la semaine, en principe. Nous revenons sur l'image, notamment, de l'ancien buteur de Chelsea, escorté par ses fans jusqu'au siège de la FIFA avec nos invités du jour. Franck Simon de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Hervé Penaud de l'équipe est également là. Bonjour Hervé.
Bonjour à tout le monde.
Quel plaisir. Et Salim Bongali de RMC Sport. Bonjour Salim.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et tous.
Alors on parlait déjà de lui lundi dernier aussi, et on en disait déjà le plus grand bien. Pierre-Emerick Aubameyang a été le héros de la finale de la Cup samedi à Wembley. Arsenal s'impose 2-1 contre Chelsea avec un doublé de son capitaine. Au sommaire également la Coupe de la Ligue en France. La finale n'a pas emballé les quelques 5000 spectateurs du Stade de France, mais elle a permis au PSG de parachever son sans faute dans les compétitions nationales. Le PSG vainqueur de Lyon au tir au but, un Olympique Lyonnais qui aura donc rivalisé avec son adversaire jusqu'au sixième tireur, jusqu'à ce tir au but de Bertrand Traoré, arrêté par Keylor Navas. Radio Foot préparé avec Marie-Amélie Mott, Laurent Salerno et Pierre Cognard. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel. C'était samedi matin à Abidjan. Les supporters de Didier Drogba sont allés en nombre au siège de la Fédération Ivoirienne de Football à l'occasion du dépôt de candidature de l'ancien capitaine des éléphants. Car oui, Drogba est candidat, ou plutôt candidat à la candidature, c'est ce qu'on va dire pour le moment. Au même titre que Sori Diabaté, le vice-président de la FIF, Kidriss Diallo, ancien vice-président de la FIF, et il y aurait également un quatrième homme en la personne de Paul Kofi Kwaku. Selon certaines informations que vous confirmez ou pas, messieurs, Franck Simon?
Bah, c'est ce qu'on a lu, effectivement. Oui. C'est un jeune responsable de centre de formation, qui ferait partie du lot. Ça paraît une candidature marginale, une candidature oui, à la marge de ce qui promet d'être une belle bataille de toute façon.
Hervé?
Bah oui, d'autant plus qu'on voit pas tellement comment il a pu avoir les parrainages, parce qu'on va en parler dans quelques secondes, mais c'est déjà une vraie bataille pour obtenir ces fameux parrainages. Alors lui, il serait sorti d'où pour avoir notamment les groupements d'intérêt? Ça paraît assez peu probable. Maintenant,
ça fait parler de lui.
Voilà.
Ça fait partie des nombreuses zones d'ombre qui vont s'éclaircir, n'en doutons pas. À quelques heures de leur limite, en tout cas, Didier Drogba a déposé les documents demandés et il a fait également cette déclaration.
Ma carrière en tant que joueur est terminée et je suis là, de retour dans mon pays et déterminé à contribuer, à apporter ma pierre à l'édifice du renouveau, du développement, du football en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas tant être président de la FIF qui m'intéresse, mais c'est la mission qui lie cette posture. Si mon objectif n'était pas poussé par une profonde volonté de redonner au football ivoirien tout ce qu'il m'a donné, si mon objectif n'était pas poussé d'une volonté profonde de contribuer au développement du football, si Dieu n'était pas dans cette candidature, alors il y a bien longtemps que je me serais retiré, comme certains le souhaitent.
Voilà, le discours de Didier Drogba, et il vous inspire déjà, Salim.
Oui, entre guillemets, de manière radiophonique, entre son arrivée avec tous les supporters, utilisons le terme qui était autour de son arrivée. Ce discours, presque, on a l'impression d'entendre un meeting politique. J'ai pas l'impression d'entendre un candidat à la FIF, mais un candidat à la présidence du pays, presque, qui a ce discours, qui évoque Dieu. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses évoquées, et j'ai l'impression plus d'entendre un politique que un simple sportif, entre guillemets.
Bah, c'est vrai qu'une campagne, c'est aussi de la com, et que là, ce qu'on a vu, ces images de cette foule, l'arrivée qui avait été annoncée, le cortège de voitures, le discours, ça fait beaucoup de choses. C'est réussi pour vous, cet effet d'image ?
Ah bah sur l'effet d'image, oui, il y a une forme de réussite. Hervé. Alors après, on pourra parler des conséquences qui peuvent être très négatives, voire désastreuses, hein, si jamais il pouvait pas parvenir à son but, qui serait simplement d'être candidat. Mais sinon, l'image à l'extérieur, elle est quand même assez incroyable. C'est qu'on a eu des photos de Drogba devant tous ses supporters, le bus arrivant et on le voyant un peu sûr de lui face à toute cette foule. Et ça avait un côté assez étonnant, assez exceptionnel. D'ailleurs, lui s'est rendu à la FIF pour déposer les parrainages, ce qui n'a pas été le cas des autres candidats. Il faut bien se rendre compte. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu, Sori Diabaté, on n'a pas vu Idriss Diallo.
On n'a pas l'équivalent pour les autres candidats.
Non, parce que lui, on sent qu'il est porté par un élan populaire lié à ce qu'il était, c'est-à-dire la star des éléphants. Mais vu de l'extérieur, si vous voulez, je ne peux pas trouver ça négatif. Ça a un côté quand même poussé par le peuple qui est assez marrant. Maintenant, ça a des contreparties, on en parlera.
Mais cela dit, est-ce que les autres candidats ne font pas aussi l'analyse logique que sur ce terrain-là, ils ne peuvent pas rivaliser avec la star mondiale du foot qu'est Didier Drogba?
Et forcément, Christophe, ils ne peuvent pas rivaliser puisque lui, pour le coup, il est cette icône populaire et pas seulement dans son pays, mais dans de nombreux pays africains. Et ils vont pas aller sur ce terrain-là. Le truc, c'est que certainement que eux voient ça un petit peu avec le sourire, parce que il est le candidat de l'anti-système. Ce n'est pas un dirigeant de métier comme les autres peuvent l'être d'une certaine façon. Et là où ils peuvent un petit peu sourire, c'est-à-dire que eux, ils maîtrisent tous ces paramètres-là. Ils ont l'habitude de ça. Ils n'ont pas jugé bon, effectivement, de s'offrir une sortie. Pourtant, ils ont aussi des soutiens. Ils ont d'ailleurs diffusé les listes des gens qui font partie de leur colistier, comme on dit. Et il y a des noms très connus. On a des confrères, des consoeurs, on a des anciens internationaux, des dirigeants, des présidents. Donc voilà. Mais lui, et c'est vrai, je rejoins Salim et aussi Hervé. Il est dans la démonstration. Vous savez, on appelle ça en stratégie de la gesticulation. C'est important. C'est aussi montrer les muscles, mais ça ne suffira pas. Peut-être.
Oui, ça ne suffira pas, d'autant plus que là, on se rend bien compte qu'il y a un problème quelque part. On ne sait pas où il se situe. Alors maintenant, René Diby, qui est le président de la commission électorale, hein, va faire le tri, va regarder un peu d'où viennent tous ces parrainages. Mais on se rend compte qu'il y a des clubs qui ont parrainé les trois candidats. Alors, qui a parrainé? Point d'interrogation. Si lui vient en estimant...
Alors, on rappelle, juste, oui, pour ceux qui ont manqué les épisodes précédents et l'émission de lundi dernier, bon, vous êtes pardonnés, on va vous faire ce petit rappel.
C'est la dernière fois qu'il l'a rappelé.
C'est la dernière fois. Il y a un système de parrainage, effectivement. Il faut avoir le soutien d'un certain nombre de clubs, de Ligue 1, de Ligue 2, 3. De Ligue 3. Et il faut aussi avoir le soutien d'au moins un groupement d'intérêt. Alors, voilà. Et on se rend compte, effectivement, à la lecture des listes, que...
Il y a des doublons, voire des triples.
Voilà, que certains ont donné leur soutien à plus d'un candidat.
Africa, Alors, on attend de voir exactement ce qui va se passer.
Que disent les textes
et voilà. Qui a le droit de voter? On prenons l'exemple de la fille, hein, l'association de Domoro, qui lui-même est sur une liste. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu drôlatique, hein, on va dire, parce qu'il est évident que si vous êtes sur une liste d'un candidat, vous n'avez pas tendance à donner. Vous soutenez cette liste-là.
Non, mais c'est là où il faut s'interroger, parce que rien n'empêche, en fait, tu peux très bien être colistier d'un candidat, mais jugé bon au nom de la démocratie dans ce type d'élection, eh bien, de parrainer celui qui est un ancien, qui est un de tes pairs. En quoi ça gêne? Le moment venu, tu peux très bien voter contre lui, c'est pas grave. C'est aussi favoriser cette démocratie.
La démocratie. Ouais, mais enfin, bon,
c'est dommage que ça n'a pas été perçu comme ça.
Ouais, mais vu de l'extérieur peut-être, mais je pense que vu de l'intérieur, à mon avis, quand vous êtes battu pour un candidat contre un autre, vous n'avez pas tendance à lui donner, sachant que c'était l'un des rares groupements d'intérêt qu'il pouvait avoir. C'était la fille. Plus effectivement les arbitres, on l'a vu. Alors si, il faut savoir que depuis, visiblement, la fille aurait explosé. Stéphane Dini, qui est un des membres qui vote, hein, aurait fait une scission de son côté, de la même manière que les arbitres avaient fait la même chose. Vous aviez les arbitres pour Sori Diabaté, et qui apparemment auraient fait scission pour donner leur voix à Didier Drogba. Mais au final, il faut se souvenir que dès le départ, dès qu'on a appris ça, le président de la commission électorale ou un membre de la commission électorale a dit tout de suite, attention, non, il y a un seul votant qui était le Koulibaly Souleymane, qui était celui qui dirigeait au départ les arbitres. Et donc, cette voix-là allait sur Sori Diabaté.
Attention à l'annulation des parrainages, du coup. Que disent les textes? C'est ce qu'on attend de savoir à travers la voix de René Diby, qui lui, pour le coup, connaît bien les instances sportives et fédérales. S'ils annulaient certains parrainages, évidemment, la candidature la candidature pour être candidat tomberait pour Didier Drogba.
Oui. Le problème est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'interroge vraiment sur sa capacité à pouvoir être candidat quand on voit les soutiens qu'ont affiché les deux autres candidats majeurs.
Sori Diabaté, c'est 45 sur 80.
Sori Diabaté, c'est du lourd. Bon, après, attention, c'est une campagne, hein, donc c'est d'ici septembre, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, en ce qui concerne Didier Drogba, aujourd'hui, alors il a fait venir, si vous voulez, c'est pour ça que je parlais de la contrepartie qui peut être négative. Vous avez entraîné cette élection sur le terrain aussi de la popularité, voilà, et du succès peuple contre les élites en place. Et là, il peut y avoir aussi un petit danger, parce que imaginez qu'il soit invalidé, je ne sais pas exactement ce qui va pouvoir se passer par la suite. Donc faut toujours jouer. Vous savez, quand vous jouez avec le feu, faut faire attention, hein, parce que des fois, on peut le faire mettre en place, mais pour l'éteindre, ça devient plus compliqué.
C'est ça. Pensons déjà au coup d'après. Imaginons que finalement la candidature de Didier Drogba soit validée. Il a donc ce soutien populaire. On l'a vu et on voit ces images-là. Si demain il est largement battu, très largement battu, eh bien,
c'est de la fiction pour l'instant, puisque
non, mais on ne sait pas encore. Je me permets d'anticiper.
Non, mais ne serait-ce qu'un validée, pour sa candidature
voilà,
soit validée.
Imaginons
que sa candidature soit validée.
Enfin, il faudra que ce soit très clair auprès de la population, que c'est pas parce qu'il est populaire auprès de celle-ci que Didier Drogba a une chance. Non, c'est d'autres personnes, c'est un autre collège de votants.
Ouais, mais moi, ce sont quand même les mêmes personnes. Ça va être quand même des membres de Ligue 1, Ligue 2, etc., qui ont voté. Il y a 81 votants. Mais en dehors de ça, moi, c'est plutôt de savoir s'il aura le droit d'être candidat. C'est là où je pense qu'il peut y avoir problème. Parce qu'une fois que vous êtes candidat, si les autres votent pour vous, alors bien sûr, il y aura des pressions sur les uns et les autres, évidemment. Mais à la rigueur, ça fait partie de la démocratie. Si on accepte le jeu de la démocratie, on accepte la victoire comme la défaite. En revanche, s'il n'est pas candidat, c'est là où je pense que ça peut provoquer quelques remous.
Certainement. Voilà. Certainement, je te rejoins. Ça peut créer des remous très importants, notamment du côté de la fédération. On l'a bien vu, cette gesticulation, ce monde qui l'a accompagné jusque au grand portail de la fédération, de la FIF à Trècheville. Généralement, quand vous passez dans cette rue, dans ce quartier-là, les seules fois où ça bloque, c'est parce que il y a beaucoup de circulation. C'est pas parce que Didier Drogba vient dans un beau véhicule accompagné par le public. Donc, il y a vraiment, je pense, un risque si d'aventure sa candidature venait à être invalidée.
Ouais, il y a une partie des commentateurs qui disent que Drogba doit pouvoir, parce que c'est un grand joueur, se présenter poste-là.
Ça n'a aucun sens. Il y a les textes. Les textes sont très clairs et disent « Ah, c'est pas parce que vous êtes populaire que vous pouvez candidater. C'est juste parce que vous avez le collège de votants, le collège de parrainage, mais pas parce que vous êtes populaire. Vous pouvez être l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot africain, pas de problème. Mais à un moment donné, il y a les textes. Et d'abord, ces textes-là, dans une démocratie, qui doivent être validés.
Mais l'ancrage populaire, c'est une chose, mais il y a des textes. Donc, il faut s'en référer aux textes. Ben, on va pas quand même les tripatouiller à chaque fois. Sinon, c'est assez moqué quand même des élections africaines. Exactement. Où chacun faisait trois mandats, quatre mandats, faisant un peu ce que vous voulez. Et là, on dit, mais Drogba, il est bien, hein. Comme ça, on l'adore, et il aura le droit de se présenter. Non. A-t-il les parrainages ou non? S'il les a, tant mieux pour lui, il aura la possibilité de se présenter. S'il les a pas, faut accepter le verdict de ces urnes-là, de ces premières urnes-là.
Alors, vous avez parlé de René Diby, on le reprécise, c'est lui qui préside la commission électorale indépendante depuis, il était nommé il y a à peu près un mois.
Et espérons qu'elle soit indépendante.
C'est un ancien ministre, c'est également un ancien ministre des Sports, un ancien président de la Fédération ivoirienne de football, et si on a bien compris, dans la semaine, il devrait décider, annoncer quelles sont les candidatures validées pour une élection qui reste toujours prévue le 5 septembre, sachant que le président sortant, Sidi Diallo, ne se représente pas. On s'arrête là pour le moment sur ce sujet, mais dans l'actualité du foot africain, il y a aussi du nouveau aujourd'hui sur la façon dont les Coupes d'Afrique de clubs vont en principe s'achever. La CAF a validé un calendrier et il y a du changement par rapport à ce qui était prévu, notamment en Ligue des Champions. La formule du Final Four, le Final 4, n'est plus envisagée, n'est plus à l'ordre du jour pour la Ligue des Champions. On revient à quelque chose de beaucoup plus classique avec des demi-finales qui vont se jouer en aller-retour. Retour. Les demi-finales aller auront lieu au Maroc les 25 et 26 septembre, le Wydad contre Al Ahly et ensuite le Raja contre Zamalek, et les demi-finales retour une semaine plus tard en Égypte, le lieu de la finale, dépendra des équipes qui seront qualifiées pour cette finale. Soit ça aura lieu en Égypte, soit ça aura lieu au Maroc, soit ça aura lieu sur terrain neutre. Donc, d'abord, est-ce que vous comprenez ce choix de retour à une formule classique après le désistement du Cameroun qui devait accueillir ce Final Four?
Oui, moi je trouve ça très bien, puisque quand même le championnat du Maroc a repris. En Égypte, ça joue, donc à un moment, et je vois pas pourquoi on
peut. En Égypte, ça reprend en principe à la fin de la semaine.
Il y a des matchs de préparation pour l'instant.
Le Maroc, pour le coup, a repris. Là, on parle de fin septembre. Alors, bien sûr, on verra ce qui va se passer avec la pandémie, puisqu'on n'a pas de lisibilité sur un avenir très très lointain. Mais en tout cas, je trouve qu'il n'y avait pas raison de faire comme l'UEFA avait fait. Puisque il y avait des possibilités, en sachant que les clubs qualifiés étaient des clubs du nord de l'Afrique, et qu'il y avait donc possibilité de jouer ces matchs-là à huis clos, j'imagine, dans des conditions un petit peu, ou alors avec une jauge très très faible, je pense que c'est une très bonne initiative.
Oui, la question de huis clos ou alors quelques spectateurs est encore laissée en suspens. Pour le moment, concernant l'autre Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération, le principe du Final Four au Maroc est maintenu. Et là, ce sera à huis clos, pour le coup. Donc, demi-finale sur un seul match, le 22 septembre, Pyramids FC contre Oroya à Casa. Et Renaissance de Berkane contre Agadir à Rabat. La finale à Rabat également, le 27 septembre. Ce qui fait qu'on aura une riche semaine de foot au Maroc. Oui. Puisque quand on réunit les deux compétitions, eh bien ça fera entre le 22 et le 27 septembre pas moins de 5 matchs de Coupe d'Afrique. Voilà, donc la fin de la semaine a aussi été triste pour le continent et le foot camerounais, singulièrement avec la disparition d'une figure de l'équipe nationale. Stephen Tato est décédé à 57 ans. Notre correspondant Étienne Arthur Defoe nous a raconté sur l'antenne le parcours et comment le tonnerre de Yaoundé était allé le chercher en 1986 alors qu'il jouait à Bamenda. Et c'était un arrière droit. Il a été surtout Franck Simon, le capitaine de cette grande équipe du Cameroun que l'on avait vue à la Coupe du Monde 1990.
Absolument.
Vous l'aviez croisé, Stéphane.
Oui, oui, je l'ai un petit peu croisé dans ces années-là. C'est vrai que c'était un joueur important qui restait très 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 longtemps en fait sur le continent, puisque il a effectivement évolué pendant un certain nombre d'années au Tonnerre de Yaoundé, puis à l'OM, l'Olympique de Mvolié. Et c'est après ce passage-là qu'il devient le premier Africain à jouer en fait au Japon. Il part à Tosu. Il a joué dans deux clubs au Japon, à Tosu Future, puis ensuite, je crois, à Sagan Tosu. Et il est le premier à ouvrir cette voie-là. Et c'était un grand, grand défenseur, un joueur, un leader aux côtés d'autres grands noms. Parce que il est contemporain des Théophile Abega, des Emmanuel Koundé, Roger Mila, Thomas Nkono, enfin, on peut tous les citer. Et il est cet homme, on a cette silhouette, surtout cette petite moustache. Je me souviens de sa moustache, sa silhouette, un gentleman sur le terrain, parce qu'il y avait quelques joueurs qui avaient un jeu très très musclé. Je pense à Benjamin Massing, par exemple, et lui était un latéral vraiment très très intéressant et grand, un grand monsieur qu'après, mais j'ai même croisé un jour sur un terrain, j'ai joué contre lui.
Effectivement, fait un petit
pont, pas du tout, parce que c'est, vous savez que c'est compliqué quand vous jouez même contre ces joueurs à la retraite, c'est des grands messieurs.
Ils veulent gagner.
Et ils veulent gagner, mais il avait toujours cette élégance et ce Camerounais, quand il parlait français avec ce léger accent, puisqu'il est anglophone, un léger accent toujours très agréable. On le regrette parce qu'il est parti très tôt, trop tôt, je crois à 57 ans.
57 ans, oui. Ouais. Et il fait partie de cette équipe, il était capitaine de cette équipe du Cameroun, qui en Italie en 90 est la première équipe africaine à accéder au quart de finale d'une Coupe du Monde. Vous vous souvenez que d'ailleurs on a fêté le 30e anniversaire il n'y a pas longtemps. Avec le but de François Omembi, qui avait eu ce match contre l'Argentine, la victoire surprise du Cameroun, hommage de Maradona, notre réfé a tiré notre attention là-dessus, hommage de Maradona sur Instagram, qui a publié la photo vieille de 30 ans, donc, où on voit avant le coup d'envoi de ce match, Cameroun-Argentine, l'échange de fagnons entre Maradona et Tato sous le regard de l'arbitre français Michel Vautreau. Hervé?
Oui, Claude Leroy disait toujours de lui, il a un sourire absolument incroyable. C'est-à-dire que quand il souriait, quand il riait, ça donnait une ambiance dans l'équipe et un personnage vraiment qui avait ça, une sorte d'humanité en lui. Pas un ultra causant, faut quand même dire la vérité. Moi, je l'ai souvent croisé, mais j'avoue que j'avais pas de rapport particulier avec lui. Mais il jouerait aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il trouverait des clubs facilement comme latéral. Parce qu'à l'époque, on partait pas comme on le fait aujourd'hui. Lui, la Coupe du Monde a été une petite
exposition. C'était le problème, pour lui, il est resté très longtemps au pays. Mais il a fait des essais en Angleterre.
Mais il a
après la Coupe du Monde en 90.
Malheureusement, il a terminé un peu dans le dénuement. Il n'avait plus beaucoup d'argent. Et comme beaucoup de joueurs, d'ailleurs, de cette génération 90, il va falloir un petit peu se poser des questions. Et puis, je pense que même l'État camerounais pourrait, symboliquement, quand même, plus que symboliquement, aider certains joueurs qui sont un petit
cette
peu dans
belle
la difficulté.
Génération.
Cette magnifique génération qui a permis au Cameroun aussi d'exploser à la face du monde. Il ne faut pas oublier tous ces joueurs-là. Et Tato était quand même le symbole en tant que capitaine. Même si, évidemment, dans ce groupe de 90, les vrais capitaines, entre guillemets, c'était les Belles, c'était les joueurs, même Belles ne jouant pas, et tous les autres, François Van Beek, enfin tous les autres, les quelques professionnels qu'il y avait dans l'équipe.
Franck?
C'était bien que comment Hervé ait cité Claude Leroy, parce que c'est lui qui l'amène en équipe nationale, en fait, à l'occasion d'un tournoi dans l'Union, ce qu'on appelait l'UDEAC, l'Union douanière d'Afrique centrale. Il y avait des tournois tous les ans, et il débute, en fait, je crois, en Guinée équatoriale, en décembre 86, donc le Cameroun est déjà, a déjà fait finale de CAN, et c'est à partir de là que sa carrière en équipe nationale est lancée, et il va devenir ce défenseur très important, aux côtés des Victor Ndipakem, Bertin Ebouélé, Hans Agbo. Ça a été un joueur important pendant cette dizaine d'années.
Et il a participé aussi à la victoire du Cameroun à la CAN 88.
Absolument. Absolument.
Autre disparition, samedi, Alex Dupont, 66 ans. Alex Dupont qui ne s'était pas fait connaître comme joueur, mais comme entraîneur. Il a réussi l'exploit d'emmener Guenion à la victoire de la Coupe de, en Coupe de la Ligue.
Coupe de la Ligue, il y a 20 ans.
En 2000, alors que Guenion jouait en deuxième division. Alors, hommage unanime pour cet homme-là, parce que c'était un homme particulièrement attachant.
Oui, attachant. Déjà, je me permets d'évoquer deux choses. Le sportif, on l'a évoqué il y a quelques instants, évidemment ce titre incroyable avec Guenion en 2000 face au Paris Saint-Germain. Je me souviens de deux autres moments très forts avec lui. Évidemment, sportivement, toujours Brest. À l'époque, le club est en Ligue 2, il le fait monter en Ligue 1. Et Brest, c'est un nom, c'est une place forte du football français, donc ça comptait. Sedan aussi, on l'oublie. Lorsqu'il est sur le banc de Sedan, il finit cinquième du championnat, cinquième de Ligue 1.
Et qualifié pour la Coupe de l'UEFA.
Sur le banc de Sedan, et il arrive à qualifier le club pour la Coupe de l'UEFA. C'est quand même invraisemblable, on est en 2020, de se dire que Sedan a joué la Coupe de l'UEFA grâce à lui, donc déjà des performances sportivement incroyables. Et puis j'ai eu la chance, peut-être que Franck et Hervé, vous avez déjà interviewé Alex Dupont.
Très souvent, Hervé comme moi.
Vrai que Alex Dupont, vous l'appeliez, vous lui envoyiez un SMS, à 99% il vous disait oui, et moi une fois c'est arrivé où il n'était pas dispo pour l'interview en question, il m'a rappelé, pardon Salim, je suis désolé, je lui dis, mais c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas dispo, il n'y a pas de souci. Souvent, on dit des personnes qui partent, qu'elles étaient gentilles. Lui, c'était un vrai gentil. Un vrai, vrai gentil.
Tout est dit dans ce que tu racontes.
Un personnage.
Et c'est vrai, Hervé lui a consacré un très bel hommage dans le quotidien L'Équipe. Je t'ai envoyé un message parce que vraiment, ça m'a touché. Je le connaissais un petit peu aussi. Et on a toujours eu à vivre des bons moments avec lui.
Ouais.
Pas seulement dans le cadre professionnel, mais c'était vraiment quelqu'un de très...
chaleureux.
Très chaleureux, ouais. Très attachant. Et puis un amoureux aussi de l'Afrique. Ah. Et ça, c'est bien que tu l'aies évoqué hier.
Amoureux de l'Afrique, parce qu'en
fait, c'est le frère de Bruno Metsu.
Oui, c'est le quasi-frère. En fait, il fallait savoir qu'Alex Dupont, il est pas ses parents, je sais pas quel était le rapport avec ses parents, ou s'il était décédé, je sais plus exactement. Et c'est en gros le père de Bruno Metsu, enfin les parents de Bruno Metsu, qui s'occupaient un peu de lui. Il venait tout le temps voir Bruno. Et depuis leurs premières années à Dunkerque. Donc, il le considérait comme son frère. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait appelé pour m'annoncer le décès de Bruno. J'étais en Côte d'Ivoire à l'époque pour un match qualificatif Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire contre Sénégal. Et c'est lui qui m'avait appelé. Il me dit, Hervé, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre, etc. Donc c'était quelqu'un de très très proche de Bruno, et franchement un type, un humain incroyable, d'une gentillesse, vous savez, c'est le genre de personne où vous avez envie de passer des bons moments avec. Ouais. C'était tout à fait lui. Mais malheureusement, il est parti un peu trop vite.
Trop vite, trop tôt. Ouais.
Sur une crise cardiaque en pleine nuit, alors que la veille, au soir, il était sur Europe 1. Il était sur Europe 1 en train de commenter le match de la finale de la Coupe de la Ligue.
Il parlait de Guenion PSG justement 20 ans avant, on l'entendait avec le sourire, avec Sylvain Distin qui était à l'antenne à ce moment-là, donc on l'entendait vraiment avec le sourire, bien quand il fallait.
Ça nous ramène 20 ans en arrière. J'ai passé des jours et des jours à Guenion durant cette saison-là. C'était ma première saison de suivre la Ligue 2 pour France Foot. Et il m'avait accueilli dans le vestiaire. J'en parle, je fais un petit papier dans le France Foot de demain. Et il m'avait accueilli au sortir. Il venait de prendre sa douche, quoi. Et donc, moi, je tape comme ça au vestiaire. Et puis, il me dit, écoute, installe-toi. Il y avait du punch dans le coin de son vestiaire. Il me dit, tiens, prends, serre-toi un coup. Et puis, on va causer. Et c'était ça. Il te connaissait pas, mais il te mettait à l'aise tout de suite. Il avait cette générosité.
Ah, c'est ce qu'on appelle un amoureux de la vie.
Ouais. Voilà.
La très grande simplicité et la chaleur de Alex Dupont.
Bertrand Traoré pour laisser Lyon devant. Oh, il est par Taylor Navas. Navas. Le tir au but de Bertrand Traoré. Il est parti du bon côté.
Sarabia face à Lopez marque. Et Paris remporte une 9e Coupe de la Ligue. Il est parti, il s'élance et il marque. Et voilà Sarabia qui offre donc cette 9e et dernière Coupe de la Ligue au Paris Saint-Germain.
Ils ont donc tout gagné. Le PSG a renoué cette saison avec le quadruplé qui lui avait échappé la saison dernière. Tout ce qui était en jeu en France, à savoir le trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et donc la Coupe de la Ligue, tout a été versé au palmarès de l'ogre du foot français. Et ça, c'est quand même... Ça reste une énorme performance, ouais, même si on a un budget énorme.
Même si je pense que le PSG est prêt à mettre ce quadruplé de côté pour remporter la Champions League au final.
C'est possible, ça, oui, effectivement.
C'est pas faux. Ouais. Olivier Pron avait l'air très heureux. Je ne sais pas si c'était parce que le stade de, son stade de Reims était de retour concomitamment. Grâce à cette victoire, Reims est de nouveau en Coupe d'Europe et on est très heureux, évidemment, pour ce club.
Non, la vérité, c'est que il était peut-être heureux pour Reims, mais on était heureux de commenter un peu d'action parce que ça fait un peu manqué de spectacle sur la fin, hein, Hervé, non?
Et ben bizarrement, moi je fais partie des gens qui ont assez apprécié ce match-là. Alors je dis pas que c'était exceptionnel, mais enfin il y a eu du suspense. Il y a une équipe de Lyon qui a bien joué, qui a mis du pressing haut. Il y a eu des arrêts de gardien, donc ça prouve quand même quelques actions. Vous avez des gestes de technique de très haut niveau par Verratti, Neymar, mais parce que quand vous voyez le pressing qui avait été imposé par les Lyonnais, qui était assez intéressant sur des pressings avec quasiment à 8, 9, 10 parfois sur les joueurs parisiens, il fallait avoir la qualité technique pour sortir de ces pressings-là. Ça n'avait rien à voir avec le match entre le PSG et Saint-Etienne. Mmh. Là, on sentait qu'il y a quand même eu du jeu, il y a eu de l'intensité.
Et du coffre. Alors,
n'oublions pas qu'il n'avait pas joué depuis 5 mois.
Je le prends par le sens que vous proposez, sortir du pressing, et là, je pense immédiatement à Verratti.
Ouais. Il a été exceptionnel.
Enfin, qu'on n'avait pas vu jouer depuis 4 mois.
C'est ça. Et donc, on se posait des questions, forcément, au milieu de terrain, son niveau, son abattage, etc. Bon, la réponse est claire. Voilà le leader absolu. On le sait, dans certains médias, peu importe d'ailleurs, il est critiqué, il est tensé, etc. Il a apporté une réponse claire. Marco Verratti, il est évidemment essentiel dans ce milieu de terrain. Alors, on le sait, il doit toujours, potentiellement toujours progresser, notamment dans sa relation avec l'arbitre.
C'est un euphémisme.
Voilà. On est d'accord. Mais à côté de ça, sur le terrain, il dégage une telle aisance et un tel calme, malgré tout, malgré le pressing qu'il peut subir de la part de un, voire deux joueurs. Il reste toujours très calme. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Et ça permet de donner du calme à ses coéquipiers aussi.
Est-ce que Neymar, vous en diriez autant de bien que Verratti? Parce que je pense que Verratti
je pense que vous êtes entraîneur sur un match comme ça, de temps en temps vous avez quelques frissons. Vous avez envie de lui dire Marco, s'il te plaît, tes dribbles dans la surface de réparation, tu sors de deux. Parce que ça marche, ça va, il n'y a pas de souci. Mais s'il se fait prendre la balle,
tu le dis aussi à Neymar dans ce cas-là.
Oui mais Neymar, il le fait plus haut.
Mais
le faire plus haut, c'est pas de souci, là il n'y a aucun souci. En revanche, le faire dans ces zones-là, et c'est pour ça qu'il y avait des entraîneurs qui voulaient pas le voir devant la défense, mais un peu plus haut, parce que quitte c'est à vrai. Perdre la balle, vaut mieux la perdre un peu plus haut que juste devant sa défense. Et je peux comprendre la tension qui peut naître sur le banc d'un entraîneur. En revanche, Neymar, dès qu'il touche la balle, il peut se passer quelque chose.
De la tête ou du pied, on a vu, de la tête.
À tout niveau, mais c'est un joueur hors norme. Je pense que c'est le meilleur joueur du championnat de France, même au-dessus de Mbappé, parce qu'il a fait encore, il a beaucoup plus d'expérience, il est capable de tout. Il met 2-3 accélérations, vous êtes à l'adversaire, vous ne savez jamais comment le prendre. Et pourtant, les Lyonnais ont été bons, j'ai trouvé dans cette zone de terrain. Lui, Cacré, Dubois, Denayer ont essayé de bien le serrer.
Très gros milieu de terrain.
Ils ont vraiment bien bossé. Ouais. Mais à un moment, contre le génie, il est difficile de s'opposer. Et il est capable, rappelez-vous, la frappe qu'il met à un moment de première mi-temps qui passe à 3 cm à la vitesse où il va. Ouais. Donc après, on me dit il a éliminé un joueur lyonnais, il n'a pas été bon. Non, vous êtes beau être excellent, excellentissime, mais à un moment, quand Neymar vous dribble, vous êtes passé. Beaucoup de joueurs sont passés. Donc ce qu'il a fait encore là, il a montré qu'il a de l'étincelle à tout moment dans ses pieds. Il n'a pas marqué au final. Hein. Alors c'est vrai que parfois il se fait prendre la balle, mais enfin on ne peut pas attendre de Neymar.
Sur tir au but quand même, exercice qu'il maîtrise. Hein.
Et Verratti aussi. Hein.
Et un calme de Neymar justement sur son tir au but, c'était impressionnant. On se disait, c'est pas le moment de le louper. C'était le dernier tir au but à 5-4 pour Lyon. Donc s'il le ratait, Lyon gagnait. Et le calme et réussir à le mettre précisément au ras du poteau, ça peut pas être plus précis. En fait.
Il le met comme dans son jardin.
Ah oui, c'est calme. Ça.
Alors là, on parle des bonnes choses. Là, Christophe, vous voulez pas qu'on parle aussi de choses qui n'ont pas été terribles?
Mais bien sûr. Mais vous croyez quoi?
Idrissa Ganagay, ça peut être un sujet, non? Peut-être.
Et si vous voulez parler de Ganagay, allons-y. Il vous a pas plu.
C'est pas des regrets. C'est vrai qu'il y a une belle frappe, mais voilà, on est très nombreux. Je pense qu'on est même une majorité à constater que C'est pas le Idrissa Gana Gueye du début de saison, du tout début de saison, notamment en Ligue des Champions où il nous avait ravis. Moi, je trouve que ses performances, elles sont pas au niveau de ce que ce garçon a comme potentiel, voilà.
Et ça, le problème, c'est qu'il nous a proposé tout de suite quelque chose d'exceptionnel contre le Real.
Et du coup, ouais, c'était, non, mais il peut, mais sauf que je trouve que ça a été en se désagrégeant. C'est ça qui m'attriste. Je trouve qu'il a, là, dans le match d'avant, je l'avais pas trouvé génialissime. Et là, c'était pas le pire, hein. Au Paris Saint-Germain, il y en a d'autres qui ont été vraiment pas bons. Mais voilà, c'est pas le Gana Gueye qui était.
Sans avoir fait un match exceptionnel, il a fait 2-3-4 récupérations de balles intéressantes, une frappe qui aurait pu amener un but.
Alors,
là où il a été mauvais, Là où il n'était pas très bon, disons, c'est dans sa relation technique. Parce que notamment ses passes où il a lancé dans profondeur et ça arrivait assez rarement. Non, mais il peut faire mieux, il doit faire mieux. Maintenant,
mais
il faut
depuis
jamais.
Depuis un moment.
Mais là, il ne faut jamais oublier quand même. Ça... Alors, on va juger le match là. Moi, je ne juge pas du mois de janvier de Gana Gueye. En ce moment, c'est une équipe qui n'a pas joué. C'est-à-dire que
on est en reprise.
Tout simplement, rappelez-vous les débuts de championnat de l'Allemagne, de l'Angleterre, d'Italie. Je me souviens bien, les gens disaient, mais c'est pas terrible le niveau. Hein. Il a fallu 4-5.
Enfin, ils ne sont pas rentrés sur le terrain le vendredi. Ça fait quand même quelques matchs, le Paris Saint-Germain.
Mais d'autre côté, attendez, reprise, c'est pour ça aussi, l'année dernière, on était en septembre. C'était le début de saison, au final, face au Real. Et il avait été tellement incroyable dans une phase de début de saison, justement. Là, c'est un peu similaire, au final. C'est pour ça qu'on se dit, ça, en début de saison, il est capable de ça, donc il est capable, entre guillemets, de ça, à tout moment, entre guillemets.
Après un mois de compétition, là aujourd'hui, c'est après un match ou deux matchs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit hausser son niveau de jeu. Non, mais c'est sûr. Mais il doit hausser son niveau de jeu, faire mieux, ça, y a pas de doute.
Il y a beaucoup d'interrogations, Hervé, quand même, sur lui aujourd'hui. Ça n'enlève rien à ce joueur, à ce potentiel. On le connaît en sélection et à quelques matchs qu'il peut faire, sauf que là, bah, je suis désolé, la finale d'avant, il avait pas été génial. Il a quand même eu des matchs, des morceaux de matchs de préparation. On en a l'impression que ce PSG que vous me décrivez, il vient de débuter.
Oh non, mais eux, les matchs de préparation, pour moi, ça ne sert pratiquement à rien.
Tu fais un peu de coffre.
Franck, gagner 9-0 face au Havre.
Mais c'est pas le score dont je parle.
Mais ce genre de machin, on se souvient, à vrai, laisser les Parisiens.
Sur ce match, tu as raison.
Typiquement, donc ça comptait même pas, j'ai envie de dire. Entre guillemets. Demain, il y a le match face à Sochaux.
Pareil.
Et d'ailleurs, où les Sochaliens, alors même si Omar Daf a démenti les propos, ou en tout cas démenti l'idée, a priori, les Sochaliens vont un petit peu lever le pied parce que
c'est sûr.
Il faut surtout pas blesser les Parisiens avec dans quelques jours le match face à la Santa.
Ce qui permettrait peut-être de faire jouer Neymar malgré tout.
Oui. En tout cas, voilà, c'est le genre de match qui fait préparer les joueurs sans vraiment les préparer en fait.
Non, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est très important quand même de se rendre compte que le rythme et l'intensité pour le sport de haut niveau, c'est capital. On n'a jamais vu une équipe être très bonne dès son premier ou deuxième match. Alors ça peut arriver, mais après sur la longueur, ça
mais Gueye doit progresser quand même.
Mais oui, ah non, mais ça, voilà. Alors là, je suis tout à fait d'accord.
Alors Paris n'a pas encaissé de but sur ces deux finales, Coupe de France, Coupe de la Ligue, mais Paris n'a pas marqué depuis le but de Neymar servi par Mbappé. La question a été posée d'ailleurs à Tourelle, et juste après le match, en conférence de presse.
Et, il s'est fâché.
On était surpris de voir l'entraîneur du PSG démarrer, monter dans les tours vite comme ça. Écoutez.
On a seulement la chance. C'est le foot. Est-ce que vous savez les résultats, par exemple, de Liverpool contre Barcelone à Barcelone, comme ils ont joué et après ils ont gagné la Ligue des Champions? Vous montrez-moi une équipe qui joue chaque match 4-5 buts. C'est pas possible. Mais c'est, pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Ah, on cherche le négatif. Il y a 99 points positifs, mais oui, voilà, on cherche le centième. On doit trouver des problèmes et des choses. Et voilà, il n'y a pas de problème. On a gagné. Et je ne vais pas faire une excuse.
Oui, c'est vrai que le PSG a gagné, mais c'est vrai aussi qu'ils n'ont marqué qu'un but en 120 plus 90 minutes.
Oui, mais enfin,
pourquoi s'énerver comme ça?
C'est pas un bon avocat pour son équipe, en tout cas. Hein. C'est s'exprimer comme ça, là, sur la défensive, justement.
Est-ce que c'est de la fébrilité?
Oui. Ah, c'est difficile de juger. Vous savez, il y a des gens qui ont des tempéraments un peu, hop, comme ça, éruptifs. Même un entraîneur comme Klopp, il est pareil. Totalement. Klopp, même, des fois, je me souviens de certaines interviews avec des journalistes anglais qui commençaient à le titiller, et puis d'un seul coup, il explose.
Tout à fait.
Donc, c'est pas parce qu'il sortait mal dans sa peau, c'est pas parce qu'il avait une pression incroyable qu'il aurait pu même
poser
sur son équipe.
C'était la chaleur du soir qui a fait ça.
Ça fait partie, vous savez, des moments où vous êtes plus ou moins bien luné. Lui, il a la sensation que le Paris Saint-Germain, on le critique très souvent. ce qui n'est pas complètement faux non plus. C'est-à-dire pour une équipe qui gagne autant de choses, de temps en temps, vous vous dites, bon, on va peut-être souffler, mais non, vous avez l'impression qu'on va encore vous ramener aux choses négatives du match. Alors là, il faut dire quand même une chose, c'est qu'il n'y avait même pas eu de question. C'est juste Dominique Sévrac qui parlait, qui dit, bon, vous n'avez marqué qu'un but, on ne savait même pas où il voulait venir.
Il n'a pas eu le temps de poser sa question.
Voilà, d'un seul coup, il a explosé. Donc on sent que c'était plus la nervosité du moment, mais je ne pense pas à une tension particulière.
Sauf que le Paris Saint-Germain, lors de ses derniers matchs contre l'OL, des buts, il en a mis une flopée, ouais. Oui, en championnat, et le match même d'avant, c'était quoi un autre match de coupe?
La coupe, 5-1.
5-1. Il y avait eu un 4-2 au Parc des Princes dans des conditions climatiques terribles, où il y avait vraiment, ça avait été une très très belle affiche de Ligue 1. Je crois victoire 4-2.
Et moi, j'ai la sensation que les Lyonnais étaient plus prêts que les Parisiens. Ouais. Ils ont fait une longue préparation, Lyon, pendant 8 semaines, et j'ai trouvé que physiquement, à l'impact, ils étaient plus forts.
Absolument.
Et ça nivelle les valeurs. Et quand vous n'avez pas Mbappé.
On s'arrête là-dessus. Bon, Mbappé, d'ailleurs, parenthèse, on en reparlera forcément c'est dans la semaine. Il y a un petit vent d'optimisme, là, qui est en train de monter depuis qu'on l'a vu, la cheville souple, arriver.
Quelle souplesse.
Une gazelle.
au Stade de France.
On lui souhaite, en tout cas.
Dans son joli costume. Mais donc, penchons-nous sur la prestation de l'Olympique Lyonnais. Encourageante, solide.
Oui, très encourageant.
Pas assez audacieuse, on dit certains.
Non, mais pourquoi
ils auraient pu avoir davantage.
Il faut savoir, est-ce qu'on va attaquer à 5 alors qu'il y a Neymar, alors qu'il y a ça peut partir à une vitesse colossale. À un moment donné, il faut attaquer avec parcimonie, avec justesse. Et je trouve que pour le coup, les Lyonnais l'ont plutôt fait déjà offensivement, puis défensivement, Denayer a été exceptionnel en défense.
Moi, j'ai pas trouvé Denayer. Moi, c'est Marcelo.
Moi, c'est Marcelo aussi que j'ai trouvé plus. Mais vous dites ça, Christophe, par rapport à la finale ou en vue des retrouvailles avec la Juventus.
Tout le monde pense bien sûr au match contre la Juventus.
Parce que pour la Juventus, il n'y a pas besoin de plus.
Non, ça arrive. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Non, aujourd'hui, il fallait un minimum renforcer l'axe parce qu'on se rend compte que défensivement, ils ne sont pas ultra forts. Donc ils jouent à 3. Ça leur avait réussi contre la Juve au match aller déjà parce qu'ils avaient joué comme ça. Après, milieu de terrain, ils ont besoin aussi de récupérateurs, de gratteurs.
On a vu qui a
été capable de récupérer des balles. Après, évidemment, ça vous enlève un attaquant. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Vous mettez un attaquant de trop et vous prenez 4 buts, on va dire, quand même, vous auriez pu être meilleur défensivement. On n'est jamais content, quoi, en gros. Non, moi, ce qui m'intéresse chez les entraîneurs, c'est la cohérence. À partir du moment où vous jouiez de cette manière-là, avec un pressing haut pour essayer de récupérer la balle vite, vous deviez pouvoir toucher les attaquants très vite. Le problème, le vrai problème de cette équipe, malheureusement, sur ce match-là, c'est que même Fils de Paix a été intéressant dans le mouvement, dans la volonté, il a demandé beaucoup de balles, mais en revanche, il n'a pas été très juste techniquement, et il n'est pas passé. Et Dembélé, c'était un jour sans, parce que dans les remises, il n'a pas été très, très bon, mais ça, on le sait, c'est pas sa force première. Mais en revanche, devant le but, il doit être efficace. Et là, à un moment, il y a un centre de Dubois en fin de première mi-temps, et il rate la balle, ce qui ne lui arrive jamais. C'est pour ça qu'il y avait la possibilité de passer. Là, il pouvait guère faire mieux, Lyon, sauf être un peu plus efficace devant.
Cornet a été bon aussi.
Oui, bien sûr. Ouais, avec une défense qui est la même que celle qui avait été alignée le 26 février. C'est important. On avait la même défense que contre la Juve lors de la victoire. On a eu aussi un Tony Lopez de très, 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 très haut niveau. Donc, quelque part, il y a des défaites. On dit que les défaites ne doivent pas rassurer ou quoi, mais je trouve que c'était plus qu'encourageant. Quoi. C'est-à-dire que, de ce point de vue, ils ont plutôt bien préparé le rendez-vous, à défaut de remporter un titre qui aurait été quand même très important, on l'a bien compris, pour l'Europe.
Et quand on voit que Lopez est le meilleur, c'est juste pour une petite parenthèse, légère parenthèse, comme Moulin avait été le meilleur de Saint-Etienne, c'est que ils ont quand même eu un paquet d'occasions. Ça aurait pu se terminer aussi avec 3-4 buts, avec des gardiens moins bons dans les buts. Donc c'est
les
pour
deux
ça
ont été bons, non?
Les deux.
Ouais. Ce que je disais. Kaylor Navas aussi. Ouais.
Allez, on retrouve le sujet lyonnais un peu plus tard dans la semaine, il me semble.
Terminé. Arsenal remporte sa 14e Coupe d'Angleterre dans son histoire. La 139e Cup file dans les bras des Gunners. Recordman de succès dans cette compétition. C'est un double succès pour Arsenal. Grâce au doublé de son capitaine Aubameyang comme en demi-finale contre Manchester City. Mais c'est surtout une qualification en Ligue Europa qui est gagnée par les Gunners.
Les Gunners restent les grands spécialistes de la Cup. Arsenal a remporté samedi sa 14e Coupe d'Angleterre. Victoire en finale contre Chelsea, 2-1, avec en vedette un certain Aubameyang, auquel on va réserver un petit traitement spécial dans quelques instants. Mais d'abord, Salim, quelques mots sur l'importance de ce trophée pour Arsenal. Oui. Qui n'en a pas gagné beaucoup des trophées ces derniers temps.
Ah non, puisqu'il faut remonter à 2007. À l'époque, il y avait un certain Arsène Wenger sur le banc. C'est le premier trophée post-Arsène Wenger gagné par Arsenal. La symbolique est là. En plus, c'est Mikel Arteta qui est évoqué. C'est bien au-dessus d'Unai Emery, je veux dire, dans l'esprit Arsenal, entre guillemets. Il a été capitaine d'Arsenal. Et que ce soit lui le premier entraîneur à remporter un titre sur ce banc d'Arsenal après Arsène Wenger. Ça, c'est symbolique. 14, comme donc le nombre de cups remportés par Arsenal, comme le chiffre d'Aubameyang, d'ailleurs, son numéro de maillot, le numéro 14 porté par tous les joueurs à l'issue du match, eux pour la cup, la 14e cup remportée.
Ah, c'était pas pour Aubameyang.
C'était marrant de voir. Non, c'était marrant de voir tout le monde avec ce numéro 14, comme pour penser à Aubameyang forcément. Et donc Arsenal qui va jouer l'Europa League. Ouf, Arsenal va la jouer cette Coupe d'Europe, sinon ça aurait été sans eux cette compétition. Donc Arsenal va en Europa League directement. Leicester aussi, Tottenham tour préliminaire et Wolverhampton pas de Coupe d'Europe, sauf s'ils gagnent l'Europa League cette saison.
Est-ce que c'est un succès? Est-ce que c'est le succès de Mikel Arteta?
Bah, d'une certaine manière, oui, hein, parce que vu la configuration de cette équipe depuis quelques années, il faut bien le mettre sur le dos de quelqu'un, hein, et on peut parler de Mikel Arteta, parce qu'on l'attendait quand même beaucoup cette année. Alors, ce qu'il a fait en championnat, ça n'a pas été exceptionnel, faut quand même pas se mentir. Mais en revanche, là, éliminer City, et battre Chelsea en finale, c'est quand même costaud. Et puis, il fallait un moment qui montre qui pouvait exister, bah ça c'est quand même la performance qu'il fait naître un petit peu comme entraîneur. Donc oui, on est obligé de dire que c'est tout à son crédit, mais c'est aussi au crédit évidemment d'Aubameyang.
Ouais. Les entraîneurs de toute façon, ils ont coutume de dire que la coupe c'est l'affaire des joueurs avant tout. Donc si on devait faire peut-être un pourcentage, on dirait du 30-70 ou du 40-60, mais évidemment que vu ce qui s'est passé en championnat, il y est pour quand même quelque chose. Et je trouve qu'il y a aussi une prise de conscience des joueurs à un moment donné où la saison elle est ratée, elle est foirée complètement, sauf s'il y a cet exploit, ce miracle. C'est un miracle, hein. Il y a quelques semaines en arrière, on n'aurait pas été nombreux à miser une livre sterling sur ce club, et ils sont arrivés, et dans un derby, ce qui n'est pas rien.
Et j'ai évoqué les similarités entre Arteta et Wenger. Lorsqu'il arrive la première saison, il arrive en cours de saison, alors début de saison, c'était en octobre en l'occurrence, il avait permis au club de finir 10e, et la saison suivante, première saison complète, il obtient le titre de champion en changeant ce qu'il veut lors du mercato. Arteta arrive en cours de saison, il gagne la cup. À voir désormais, je pense déjà après.
Il y a du boulot quand même.
Ce qu'il va avoir et ce qui va lui être donné comme argent, en utilisant le terme, pour le mercato, parce qu'il y a effectivement du boulot,
faut
des
vendre,
travaux,
faut
des
vendre,
chantiers,
peut-être.
Notamment des chantiers défensifs, et notamment faut vendre, c'est sûr.
Faut dégraisser. La défense est à reconstruire et conserver Aubameyang. Parce que ça va être le grand sujet.
Ça va peut-être aider la victoire.
On va en parler. Vous avez quand même oublié, Salim, la Coupe 2017.
Oui, mais c'était avant, c'était la dernière de Wenger, justement.
Voilà, c'était avant le départ d'Arteta.
C'est ça,
pardon.
C'est ça.
C'était la 13e. Alors, un petit mot quand même sur Emiliano Martinez, hein, qui a joué dans les buts, à la faveur de la blessure de Leno.
Oui.
Et qui est arrivé, alors c'était une image touchante, arrivé il y a 10 ans à Arsenal, il a été beaucoup prêté, et puis il a expliqué en fait ses larmes par son parcours, parce que cet homme-là aujourd'hui il a 27 ans, et il vient de loin, d'une famille très modeste, voire très pauvre, où il n'y avait pas toujours à manger pour tout le monde à table, où les parents parfois se sont privés de nourriture pour que Emiliano Martinez et son frère puissent manger. Ça a été dur pour lui de partir vers Buenos Aires dans un premier temps, puis vers l'Europe, d'être éloigné de sa famille. Voilà pourquoi il a pleuré à chaudes larmes après avoir gagné ce trophée, et après avoir reçu l'accolade aussi, avant de recevoir l'accolade de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors Aubameyang, un doublé contre City, dites-moi, en demi-finale de la Cup, plus une passe décisive, et un doublé de nouveau en finale contre Chelsea, lui qui ne réussit jamais contre les grandes équipes dans les grandes occasions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une métamorphose.
Franck disait hors antenne que la Coupe, ce format de compétition, c'est quelque chose de particulier, et on a l'impression que ça transcende pour le coup certains joueurs, et ça les met hors de l'état actuel, en l'occurrence en championnat. Vous l'avez dit, Aubameyang face aux très grands, il est moins présent, mais c'est vrai que sur ces matchs coup près, il a été là, il a été, c'est bête, mais donc le capitaine, rappelons-le, c'est lui qui a ce brassard, c'est symbolique, mais là encore c'est très important. Et Aubameyang, il est au-delà du leader d'attaque, au-delà du leader tout simplement de toute l'équipe. Enfin, il a une aura. Lorsqu'à la fin du match, vous avez tous les joueurs qui entourent Aubameyang et qui sautent de joie autour de lui, symboliquement, c'est fort quand même de voir qu'Aubameyang, il réunit tous les joueurs, tout le monde autour de lui aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a une époque où c'était compliqué pour lui de porter le brassard, notamment en sélection.
Totalement.
Il y a l'élimination contre le Burundi dans la course à la CAN 2019. Il y a tout ce qui se passe, il était parvenu, il revient en sélection. Il a bien recommencé avec les Panthères du Gabon il y a peu de temps en arrière. Il est de nouveau le capitaine. Il incarne ça profondément et aussi en club. Je pense qu'il a vraiment, de ce point de vue, franchi un cap important sur le plan de la maturité. Et puis, il prend toujours autant de plaisir. Et ça faisait plaisir, justement, de voir ce sourire. C'est quand même un type qui, chaque année, c'est à minima entre 25 et 30 buts, hein, depuis maintenant. Depuis 5 à 6 saisons. Mm-hmm. C'est pas rien dans le football européen.
Ouais, c'est phénoménal. On se rend pas compte à quel point il a impacté le football européen, Aubameyang. Ouais. Hein. C'est Dortmund débute à tir larigot, là, meilleur buteur l'année dernière, deuxième meilleur buteur cette année. Et puis, on le voit entouré comme ça, parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un de très sympa. Et c'est vrai que dans un groupe, il est aussi adoré. Parce que c'est quelqu'un de très humain et c'est quelqu'un qui a cette caractéristique quasiment du joueur à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'a cessé de progresser. C'est-à-dire qu'il progresse encore aujourd'hui. Alors l'histoire du capitana est intéressante parce que peut-être que le poids de ce capitana était un peu trop élevé à une certaine époque et aujourd'hui il l'assume. Ça veut dire qu'il n'a cessé de progresser. Le deuxième but étant quand même un but magnifique, élimination de Zuma et après un petit piqué. Et bien il y a quelques années, il n'aurait peut-être pas été capable de le faire. Il aurait fait l'élimination et puis serait parti après s'empaler sur le gardien. Donc tout ça c'est de la progression parce que c'est un énorme travailleur et avec son père, ils adoraient jouer.
En revanche, le lendemain, la presse anglaise, alors certains titres, notamment des tabloïds, ont été un petit peu taquins en évoquant le Pierre-Emerick Aubameyang, notamment lorsqu'il a soulevé ce trophée, il l'a fait tomber, etc. Ça, en disant c'est que Aubameyang n'avait pas l'habitude de soulever des trophées, donc pour lui c'était difficile. Mais c'est vrai, alors on en rigole, mais c'est vrai qu'Aubameyang, c'est important pour lui de gagner cette cup parce que malheureusement dans sa carrière, il en a marqué beaucoup des buts, Franck l'a rappelé, mais au final des trophées, il n'en a pas gagné tant que ça.
Le trophée RFI quand même, Marc Vianfoy.
Oui,
ça c'est quand même pas rien.
Mais en tout cas, des trophées en club, il n'a pas gagné beaucoup, donc c'était important de gagner la plus vieille compétition de club au monde.
Et je me souviens bien de la CAN quand ils sont éliminés, battus en 2012 au tir au but,
il rate son tir au but et je le vois le lendemain,
il allait prendre l'avion, pas très loin de l'aéroport, il mangeait dans un restaurant italien avec toute la famille, avec Pierre, etc. Et il avait été adorable, j'étais allé voir Pierre, je lui parlais un petit peu, ça dérange pas, il me dit non, pas de soucis, hop, il a dit, Pierre, on avait discuté peut-être 20 minutes, mais il avait été adorable, comme il l'est toujours. Tout
à fait. Alors, il nous reste 2 minutes, messieurs, est-ce que ce Pierre-Emerick Aubameyang, ce joueur-là qu'on a vu fêter avec une telle expressivité son bonheur de gagner la Coupe d'Angleterre, on peut imaginer qu'il quitte quand même Arsenal. Quand on le voit avec le brassard au milieu de ses coéquipiers, comme disait très justement Salim, est-ce qu'on peut imaginer que son avenir, la saison prochaine, soit ailleurs?
Tout est imaginable. Un an de la fin d'un contrat, là, tout est possible. Alors, soit on accepte les conditions salariales apparemment qu'il a proposées, qui sont élevées, mais enfin, à partir du moment où vous êtes le joueur qui fait la différence dans une équipe et le capitaine, vous pouvez demander quand même assez haut. Et puis sinon, avec un an de contrat, s'il n'accepte pas les conditions qui seront proposées, je pense qu'il aura des offres.
Un papa basé à Barcelone,
j'insiste, Arsenal donc a besoin d'Aubameyang, on l'a compris, il est indispensable pour cette équipe, donc Arsenal en a besoin. Arsenal est prêt à lui offrir des conditions salariales très importantes, évidemment. Mais d'autre côté, je regarde aussi les clubs. On parle des grands noms, hein, j'insiste, qui sont à minima au niveau d'Arsenal, voire au-dessus. En Europe, il n'y en a pas 10 000. Et surtout, est-ce que ce genre de clubs ont besoin aujourd'hui de ce profil de joueur? Juventus Inter, et encore, il y a Lukaku aujourd'hui à l'Inter.
Il a joué en Italie, donc ça serait plus l'Espagne, comme disait peut-être.
Voilà, son rêve, c'est l'Espagne.
Est-ce qu'en Espagne aujourd'hui, les grands noms, encore une fois, ont besoin de ce style d'attaquant aujourd'hui? C'est déjà fourni. Je ne suis pas sûr. Donc c'est pour ça que.
C'est une interrogation.
Comme ça, je vois Arsenal, mais après. Hein.
C'est peut-être un mariage qui va se poursuivre.
Exactement.
C'est fort possible.
Peut-être.
En tout cas, il y a le Community Shield qui attend Arsenal.
Un petit Liverpool-Arsenal.
C'est à la fin du mois d'août,
c'est ça. Tout à fait, le 29 août.
Voilà. Donc, avec Pierre-Emerick Aubameyang ou pas.
On l'espère.
On verra.
Face à Mohamed Salah, Sadio Mané.
Oui. Et au passage, d'ailleurs, je note, puisque vous parlez d'autres internationaux africains, que Pierre-Emerick Aubameyang est le premier international africain à porter le brassard en finale de la Coupe d'Angleterre. Ça aussi, au passage.
Congratulations.
Merci à tout le monde. Merci à vous, Salim Bongali, Hervé Penaud, Franck Simon, Marie-Amélie Motte, Laurent Salerno, Pierre Cognard, pour votre participation. Et à demain, Marie-Amélie sera aux commandes de l'émission. RFI.